C'est une étude française réalisée auprès de 105 000 personnes. C'est un gros, gros échantillonnage qui conclut que la consommation de plats préparés, de plats transformés ou surtransformés augmente quand même de beaucoup le risque de développer un cancer. Augmentation du risque global là, de 6 à 18 %. Donc, 6 à 18 % plus de chances de développer un cancer si vous consommez beaucoup d'aliments transformés, surtransformés. Et c'est particulièrement vrai pour le cancer du sein. Une hausse de 2 à 22 % liée à cette consommation donc de ces plats, de ces viandes transformées et tout le reste. Pour en savoir un peu plus, on va aller rejoindre le Dr Richard Béliveau, docteur en biochimie et auteur bien connu de plusieurs ouvrages qui se sont vendus dans certains cas beaucoup, beaucoup, comme le livre « Les aliments contre le cancer ». Richard Béliveau, bonjour.
Bonjour.
Pas surpris, hein?
Non, pas vraiment. Les données de la recherche moléculaire, cellulaire, avec les modèles animaux, indiquaient ça depuis plusieurs années. Et là, on a maintenant une étude populationnelle chez l'humain. Comme vous l'avez dit, une étude de grande envergure, 105 000 personnes suivies pendant 8 ans, et qui montre que les aliments ultra transformés sont associés à une hausse de cancer. Alors, c'est pas surprenant, mais ce n'est que le début de ce qu'on va voir là dans les prochaines années. Mais vous savez, en Amérique du Nord, on estime que 80 % de notre panier d'épicerie est constitué de produits industriels transformés. Alors, c'est pas une petite tendance, là, c'est une tendance majeure, l'industrialisation de l'alimentation.
Qu'est-ce qu'il y a dans ces produits industriels transformés qui augmente les risques de développer un cancer?
Une grande question. Il y a plusieurs éléments. Le premier élément, il y a l'aspect calorique. Il y a souvent beaucoup de calories associées à des aliments hyper transformés. Mais la deuxième caractéristique, c'est une surabondance de sel, de gras et de sucre. Alors, on donne du goût avec du sel, du gras et du sucre pour, d'un point de vue marketing, avoir des aliments très goûteux, mais plutôt que de le faire avec des épices, des herbes, des aromates ou avec des méthodes de cuisson, on donne le goût avec du sel, du gras et du sucre et on le sait depuis longtemps maintenant, ce sont des problèmes associés à l'hypertension, à l'augmentation de la charge pondérale, à l'épidémie d'obésité, le ratio oméga-3, oméga-6 dans les graisses s'est inversé. Ça, c'est le deuxième impact. Et le troisième impact qui est souvent que les gens sous-estiment, c'est que les aliments industriels contiennent des molécules, contiennent des produits qui sont des produits synthétiques que l'industrie utilise pour émulsifier les graisses, pour stabiliser le produit, on a des agents texturisants.
Agents de conservation, hein,
des
aussi.
Des agents de conservation, des amplificateurs de goût et tout ça. Ce sont des produits qu'on ne retrouve pas d'un point de vue biochimique dans la nature. Ce sont des produits synthétiques. Et on n'a pas le métabolisme, on n'a pas la physiologie, on n'a pas la biochimie pour métaboliser ou gérer ça de façon adéquate. Il y a des études qui ont montré, par exemple, que des émulsifiants comme le polysorbate 80 et le carboxyméthylcellulose étaient associés à une augmentation du risque de cancer colorectal parce qu'elle détruit la barrière dans l'intestin qui isole le microbiome, la flore intestinale, les bactéries que vous avez dans l'intestin de la muqueuse intestinale. Donc, ces produits-là sont étudiés énormément en recherche pour leur impact nocif sur la santé. Et là, dans des grandes études populationnelles, maintenant, on montre qu'il y a une cohérence, comme c'est souvent le cas en recherche, entre ce qu'on trouve en laboratoire avec des modèles in vitro, avec des modèles in vivo, et ce qu'on retrouve au niveau populationnel. Faut se rappeler là que c'est pas... Il y a un impact très, très, très important de ces produits-là, des produits industriels, sur ce qu'on appelle le microbiome. Vous avez 2 kilos là, de bactéries dans votre intestin, et quand vous mangez des produits qui sont des produits artificiels, des produits synthétiques utilisés par les industriels, vous modifiez de façon importante la composition des milliers de bactéries qu'il y a dans votre flore, des milliers de sortes de bactéries, vous en avez des milliards de bactéries, et vous modifiez la composition de votre microbiome, et ceci a un impact sur votre santé globale, incluant la probabilité de développer ou non des cancers.
Vous avez dit qu'on avait 5 kilos
2 kilos, 5
livres, 2 kilos de bactéries dans nos intestins.
Vous avez 10 fois plus de cellules bactériennes dans un corps humain que de cellules humaines. Donc, le corps humain est un écosystème dont la majorité, vous en avez partout, vous en avez sur la peau, vous en avez partout dans les muqueuses, mais vous en avez beaucoup, le colon humain est l'environnement bactérien le plus densément peuplé de notre écosystème. Wow. Donc, vous vivez en symbiose avec ces bactéries-là, et quand vous prenez des produits industriels, là, il y a beaucoup de recherches qui s'accumulent, qui montrent qu'un des impacts qu'on n'avait pas soupçonné, ce n'est pas qu'un impact métabolique, ce n'est pas qu'un impact physiologique, ce n'est pas qu'un impact biochimique sur votre digestion, sur votre nutrition, c'est un impact sur la composition des populations microbiennes de votre intestin.
Et comme on les attaque avec ces aliments-là synthétiques, on diminue notre résistance, dans le fond, au cancer. C'est un peu ça.
C'est-à-dire, vous perturbez la proportion de bonnes bactéries qui vous aident à garder un équilibre santé et vous augmentez la proportion de bactéries qui favorisent la formation d'un climat inflammatoire, par exemple, pro-inflammatoire. Une des conséquences de l'alimentation industrielle, c'est la quantité élevée d'oméga 6 puis de gras trans, par exemple, dans certains cas. Et ça, c'est clairement associé à une augmentation, une perturbation du rapport HDL, LDL, du bon puis du mauvais cholestérol, à une augmentation de l'hypertension, une augmentation de l'inflammation chronique. Ça, c'est clairement décrit dans toutes sortes d'études. C'est clairement décrit pour le cancer de la prostate, le cancer du sein. Puis là, on a une étude là, qui monte au niveau global.
Bien, ça, c'est une question que je voulais vous poser. Il me reste très peu de temps, mais pourquoi le cancer du sein augmente-t-il de beaucoup?
Je ne sais pas. C'est une observation... C'est pour la majorité des cancers, les facteurs de risque, c'est le cancer, on le dit depuis longtemps maintenant, les facteurs de risque pour le cancer du sein sont multifactoriels. Quand les Chinoises, les Japonaises, les Philippines, les Coréennes quittent le Japon, la Corée, les Philippines, la Chine, puis ils migrent en Occident, leur taux de cancer du sein est multiplié par 3, 4, 5, 6, 10 fois dans certains cas. Le cancer de la prostate chez les Japonais est multiplié par 25 fois quand ils migrent en Occident. Fait qu'il y a quelque chose dans notre mode de vie. L'alimentation n'est pas la seule chose. L'activité physique, l'augmentation du poids corporel, tout ça, qui joue sur votre probabilité de...
Oui, mais il y a autre chose. Richard Béliveau, moi, je suis certain qu'à un moment donné, on va découvrir, je ne sais pas si ça va être de notre vivant, il y avait quelque chose dans notre environnement qui était vraiment un élément multiplicateur. Est-ce que c'est les plastiques, l'utilisation des plastiques partout? Quand on regarde, là, les plastiques sont partout autour de nous. Est-ce que c'est ça? Il y a quelque chose, à un moment donné, qu'on va découvrir. Ou pesticide, peut-être, qui est utilisé dans un insecticide qui était utilisé pour les aliments à grande échelle. Il y a quelque chose.
Mais les données qui ont regardé ça du point de vue pollution montrent que l'impact majeur de la pollution, ce qu'on appelle la pollution domestique, ce sont les feux de foyer, ce sont le chauffage au charbon dans les pays en voie de développement qui augmente la densité de particules et ça c'est associé à une augmentation du cancer du poumon. Mais il n'y a pas d'augmentation dans les études où ça a été regardé. Le facteur environnemental est beaucoup plus réduit que ce à quoi les gens pensent. On le sait à partir de toutes sortes d'études là. C'est vraiment le mode de vie. L'exercice joue beaucoup. L'Organisation mondiale de la santé a émis un rapport, le Center for Disease Control, qui est un des organismes de santé publique les plus importants au monde, a émis un rapport qui est complètement passé sous le radar. Nous, on avait écrit une chronique dans le Journal de Montréal pour en parler, parce que je trouvais ça indécent que personne n'en ait parlé. Là. Montrait pour la première fois depuis le tabac dans les années 50, montrait pour la première fois que l'obésité est maintenant rendu le premier facteur de risque de cancer en Amérique du Nord. 55% des cancers chez les hommes sont associés à une surcharge de poids et 40% des cancers chez les femmes sont associés à une surcharge de poids. Ça, c'est des compilations d'études qui ont été faites avec des millions de personnes en Amérique du Nord par un des organismes de santé publique les plus importants. Donc, la moitié des cancers, c'est pratiquement le double de ce qu'on a avec le tabac. C'est la première fois qu'on identifie un facteur de risque plus important que le tabac comme cause de cancer, puis personne n'en a parlé. Focalise sur des détails. Vous savez, on parle de l'allaitement pour la réduction du cancer du sein, c'est 2% de réduction du cancer du sein. On est en surcharge de poids, c'est 50% d'augmentation des risques de cancer.
Alors, on vient d'en parler. Docteur Richard Béliveau, docteur en biochimie, auteur notamment des aliments contre le cancer. Merci, c'était très clair, très bien vulgarisé.
Merci. Bonne journée.
Bonne journée. Dans un instant, Jocelyne Robert, une des sexologues qui vient nous voir une fois de temps en temps, qui va nous parler de ce bordel nouveau genre à Paris avec des poupées gonflables. Moi, je veux comprendre.